8h33.
Chapitre 108. Akab et le charpentier. Le pont, premier quart de nuit. Le charpentier se tient à son établi et, à la lumière de deux falots, lime avec application le morceau d'ivoire destiné à la jambe, solidement fixé dans l'étau. Des plaques d'ivoire, des lanières de cuir, des mandrins, des vis et des outils de toutes sortes sont étalés devant lui. À l'avant, on voit la flamme rouge de la forge où le forgeron est à l'œuvre.
Fichu lime et diable d'os, dur ce que devrait être mou et tendre ce qu'on attendait résistant. Ainsi vont les choses pour nous autres, qui limons de vieilles mâchoires et de vieux tibias. Essayons-en une autre. Ah oui, celle-ci est meilleure. Il éternue. Oh, cette poussière d'os! Et il éternue. Cette poussière, il éternue. Cette poussière d'os, et il éternue. Sur mon âme, elle ne me laissera pas parler. Voilà ce que gagne un vieux bonhomme à travailler le bois mort. Si donc un arbre vivant, tu n'écoperas pas de cette poussière. Ampute-moi un os vivant et tu ne récolteras pas non plus cette sciure. Il éternue. Allons. Non, bon, noir de fumée, aide-moi et termine cette virole et cette boucle à vis, je vais en avoir besoin. Dans un instant. Une chance, il éternue, qu'il n'y ait pas de rotule à fabriquer. La chose aurait été un peu plus compliquée, mais un simple tibia, pas plus difficile que de confectionner une perche à houblon. Mais j'aimerais lui donner un beau fini. Ah, le temps, si seulement j'avais le temps, je pourrais lui fabriquer une jambe parfaite, la plus élégante qui ait jamais été pliée. Le « il éternue », genou devant une dame du beau monde. Rien à voir avec ses jambes et ses mollets en peau de daim que j'ai vus dans les devantures de magasins. Ils prennent l'eau et vous attrapent évidemment des rhumatismes, et il faut ensuite les soigner. Il éternue. Avec toutes sortes de lotions, comme de vraies jambes. Bon, alors maintenant, avant de l'acier, il faut que j'appelle notre grand vizir pour voir si la longueur conviendra. Un peu courte, je crois. Ah, j'entends le bruit du talon. Ça, c'est une veine, le voilà qui vient. C'est lui ou quelqu'un d'autre, pour sûr. Achab s'avance. Pendant la scène qui suit, le charpentier continue d'éternuer de temps à autre. « Eh bien, fabricant d'hommes, vous arrivez à point nommé, monsieur. S'il plaît, capitaine, je vais maintenant prendre la longueur. Permettez que je prenne la mesure, monsieur. »« Prendre ma mesure pour une jambe ? Après tout, ce n'est pas la première fois. Allons-y. »« Là, pose ton doigt sur l'endroit. » C'est un fameux étau que tu as là, charpentier. Laisse-moi sentir comme il sert bien. Oui, une bien belle paire de pinces. Oh, monsieur, prenez garde, vous allez vous briser les os. Ne craignez rien. J'aime une poigne solide. J'aime éprouver une bonne prise. L'ami dans ce monde où tout vous glisse entre les mains. Que fait-il là-bas, Prométhée ? Je veux dire, le forgeron. Qu'est-il en train de faire ? Il doit forger la boucle, monsieur, en ce moment. Bien. Voilà ce qui s'appelle une équipe. Il fournit les muscles. Quelle belle flamme ardente il nous fait. Oui, monsieur, il doit chauffer à blanc pour ce travail délicat. Je vois. Je comprends mieux maintenant le sens profond de la fable de Prométhée, l'ancien grec qui a fait des hommes, et pourquoi ce forgeron leur donnait la vie par le feu. Car ce qui vient du feu appartient naturellement au feu. L'enfer est donc probable. Quel nuage de suie ! C'est avec ces déchets que le grec a dû fabriquer les Africains. Charpentier, quand il en aura fini avec cette boucle, dis-lui de forger une paire d'omoplates d'acier. Il se trouve à bord un colporteur qui porte un fardeau écrasant. Monsieur ? Attends un peu. Pendant que notre Prométhée est à l'œuvre, je vais lui commander un homme complet, selon le modèle que je désire. Tout d'abord, 50 pieds de haut sans les souliers. Puis, la poitrine large, comme le tunnel sous la Tamise. Des jambes pourvues de racines, afin qu'il demeure planté au même endroit. Au bras, des poignets épais, de 3 pieds. De cœur, point, mais un front d'airain. Un quart d'acre de bon cerveau. Enfin, laissez-moi réfléchir. Lui faut-il des yeux pour voir à l'extérieur ? Non, ouvre-lui une lucarne sur le dessus de la tête pour que la lumière éclaire l'intérieur. Là, prends la commande et file. Ça, De quoi parle-t-il et à qui s'adresse-t-il? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que je dois rester là et attendre? À part. Un dôme aveugle? Quelle piètre architecture, en voici un. Non, 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 il me faut un falot. Ah, c'est donc là ce qu'il chagrine. En voici deux, monsieur. Un seul me suffit. Ah, bonhomme, pourquoi diriges-tu cette lanterne de gendarme sur mon visage? Braquer ainsi une lumière est pire que pointer une paire de pistolets. Je croyais que vous parliez au charpentier, monsieur. Au charpentier? Mais c'est... Non. Tu fais là un travail fort soigné, charpentier, et si je puis me permettre, excessivement distingué. Ou ne préférerais-tu pas travailler l'argile? L'argile, monsieur? L'argile? C'est de la boue, nous laissons l'argile aux terrassiers. Ce gaillard est impie. Qu'as-tu à éternuer ainsi? C'est l'os, monsieur, qui fait pas mal de poussière. Alors tire-en la leçon, et quand tu seras mort, ne te fais pas enterrer sous le nez des vivants. Comment, monsieur? Ah oui, ô seigneur. Écoute, charpentier, j'ose croire que tu te considères comme un bon artisan qui fait de la belle ouvrage, n'est-ce pas? Eh bien, n'y aura-t-il pas plus éloquent témoignage de ton œuvre si, lorsque je chausserai cette jambe que tu me fabriques, je continue pourtant à l'endroit précis où tu auras ajusté la tienne, à en sentir une autre, ma vieille jambe perdue. Charpentier, son membre de chair et d'os, comprends-tu? Sauras-tu ne pas chasser le vieil Adam? À dire vrai, monsieur, je commence à comprendre quelque chose. Oui, j'ai entendu dire des choses curieuses à ce sujet, monsieur. Qu'un homme dématé ne perd jamais complètement la sensation de son vieil espart, qui lui fait parfois comme des picotements. Puis-je respectueusement vous demander s'il en est vraiment ainsi, monsieur? Oui, mon ami, tiens, mets ta jambe vivante à l'endroit où autrefois se trouvait la mienne. Maintenant, l'œil ne perçoit qu'une seule et unique jambe. L'âme, pourtant, en voit deux. Là où tu ressens le fourmillement de la vie, là précisément, à un cheveu près, je la ressens également. N'est-ce pas une énigme? Sauf votre respect, j'appellerai plutôt cela une question intrigante, monsieur. Alors écoute-moi, comment peux-tu être sûr qu'une chose vivante et pensante ne se tient pas là, entière, invisible, libre, de toute espèce de lien, à l'endroit exact où tu te tiens toi à présent, et cela malgré toi? Dans tes heures de plus grande solitude, ne crains-tu donc pas que des oreilles indiscrètes écoutent derrière la porte? Non, pas un mot. Pas un mot. Et si je continue d'éprouver la douleur cuisante de ma jambe écrasée alors qu'elle est depuis si longtemps réduite à néant, pourquoi donc ne sentirais-tu pas à jamais, toi, charpentier, sans même posséder un corps, les tortures du brasier de l'enfer? Seigneur, en vérité, monsieur, à ce compte-là, je dois refaire mon calcul. Il me semble bien avoir oublié une décimale dans l'addition. C'est que, vois-tu, les nigauds devraient s'abstenir de poser des principes. Quand la jambe sera-t-elle finie? Dans une heure peut-être, monsieur. Alors hâte-toi, inutile de fignoler, et apporte-la-moi. Il se détourne pour partir. Oh vie, je suis là, fier comme un dieu de la Grèce, et pourtant, l'obligé de ce sceau pour un os sur lequel me tenir. Maudite soit cette dette qui nous lie les uns aux autres et jamais ne s'effacera des registres. Je rêve d'être libre comme l'air. Et mon nom figure dans tous les livres de comptes de l'univers. Je suis si riche, j'aurais aisément couvert les enchères des prétoriens les plus fortunés quand l'Empire romain, autrement dit le monde, fut vendu à l'encan. Et cependant, je suis redevable jusqu'aux muscles de cette langue avec lequel je fanfaronne. Par le ciel, je vais chercher un creuset où me jeter et me dissoudre, réduire mon être à un minuscule abrégé de vertèbres. Allons. Le charpentier. Il se remet à l'ouvrage. Bien, bien, Strub le connaît mieux que personne, et Strub dit toujours qu'il est bizarre. Il n'emploie que ce petit mot bien suffisant, bizarre. Il est bizarre, dit Strub. Il est bizarre, bizarre, et il en rebat les oreilles du lieutenant Starbuck. Bizarre, lieutenant, bizarre, très bizarre. Et voici sa jambe. Ah, et maintenant que j'y pense, n'est-ce pas sa compagne de lit? Il y a un bâton en mâchoire de cachalot pour femme. Et voici la jambe sur laquelle il va se tenir debout. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de jambe qui se tient en trois endroits différents et ces trois endroits se trouveraient dans un seul et même enfer? Qu'est-ce donc? Oh, je ne m'étonne pas qu'il m'ait regardé avec un tel mépris. On me dit que j'ai parfois de drôles d'inspirations, mais elles ne me viennent que par hasard. Un courtot comme moi ne devrait jamais se mettre en tête de s'aventurer dans des eaux profondes avec des capitaines bâtis comme des hérons. L'eau vous arrive tout de suite au menton et l'on appelle à grands cris le canot de sauvetage. Ah, voici la patte du héron longue et fine, assurément. Pour la plupart des gens, une paire de jambes dure une vie entière, et la raison en doit être qu'ils s'en servent avec toute la pitié du monde, comme une vieille dame au cœur tendre avec des chevaux rondelés de sa voiture. Mais Achab, lui, est un cocher féroce. Vois, il a mené une jambe à la mort, estropié l'autre à vie, et maintenant il vous use jusqu'à la corde des béquilles d'os en pagaille. Hola, noir de fumée, aide-moi donc avec ces vices et finissons-en avant que ce type à la trompette ne vienne appeler pour la résurrection. Toutes les jambes, les vraies et les fausses, comme les brasseurs font la collecte des vieux tonneaux de bière pour les remplir à nouveau. Ça, c'est une jambe. On dirait vraiment une jambe vivante, limée jusqu'au cœur. C'est là-dessus qu'il se tiendra demain pour prendre ses hauteurs. Eh, j'ai failli oublier la petite tablette ovale d'ivoire poli où il calcule la latitude. Bon, maintenant mon ciseau, la lime et un coup de papier de verre.